Aude en l'honneur du nez. Avez-vous jamais réfléchi, cher lecteur, à l'admirable chose qu'a un nez ? Un nez, oui, un nez. Et comme un nez est utile à tout individu qui lève, comme dit Ovide, son visage vers le ciel ? Eh bien, chose étrange, ingratitude inouïe, pas un poète n'a encore eu l'idée de faire une ode au nez. Il faut que ce soit à moi, qui ne suis pas poète ou qui, du moins, n'ai la prétention que de venir après nos grands poètes, qu'une idée comme celle la pousse. En vérité, le nez a du malheur. Les hommes ont inventé tant de choses pour les yeux. On a fait pour eux des chansons, des compliments, des kaléidoscopes, des tableaux, des décorations, des lunettes. Et puis les oreilles. D'abord les boucles d'oreilles. Robert le Diable, Guillaume Tell, Fra Diavolo, les violons de Stradivarius, les pianos d'Erard, les trompettes de Saxe. Et pour la bouche. Carême, la cuisinière bourgeoise, l'almanach des gastronomes, le dictionnaire des gourmands. On lui a fait des soupes de toutes sortes, depuis la dvatouigne russe jusqu'à la soupe aux choux française. On lui a fait manger la réputation des plus grands hommes, depuis les côtelettes à la soubise jusqu'au boudin à la Richelieu. On a comparé ses lèvres à du corail, ses dents à des perles, son haleine à du benjoin. On lui a servi des paons avec leurs plumes, des bécasses sans être vidées. On lui promet enfin, pour l'avenir, des alouettes toutes rôties. Qu'a-t-on inventé pour le nez ? L'essence de rose et le tabac à priser. Ah, ce n'est pas bien, philanthrope, mes maîtres, poètes, mes confrères. Et cependant, avec quelle fidélité ce membre ?
Ce n'est pas un membre, s'écrieront les savants.
Pardon, messieurs, je me reprends. Cet appendice, ah ! Et cependant, disais-je, avec quelle fidélité vous sert cet appendice ? Les yeux dorment, la bouche se ferme, les oreilles s'assourdissent. Le nez, lui, fait toujours bonne garde. Il garde votre repos, contribue à votre santé. Toutes les autres parties de votre corps, les pieds, les mains, font des bêtises. Les mains se laissent prendre dans le sac, comme des sottes qu'elles sont. Les pieds butent et font tomber le corps, comme des maladroits qu'ils sont. Et dans ce dernier cas, qui souffre encore la plupart du temps ? Les pieds font la faute, et c'est le nez qui est puni. Combien de fois n'avez-vous pas entendu dire « Monsieur un tel s'est cassé le nez ». Il y a eu bien des nez cassés depuis le commencement du monde. Que l'on me cite un nez, un seul, qu'il ait été par sa faute. Non, sur ce pauvre nez, tout retombe. Eh bien, il supporte tout avec une patience évangélique. Quelquefois, il est vrai, il pousse la hardiesse jusqu'à ronfler. Mais où, mais quand l'avez-vous entendu se plaindre ? Oublions que la nature l'a créé instrument admirable pour augmenter ou diminuer à volonté le volume de notre voix. Ne disons rien du service qu'il nous rend en faisant l'intermédiaire entre notre âme et l'âme des fleurs. Repoussons son utilité et prenons-le seulement de son côté esthétique, la beauté. Cèdre du Liban, il foule sous ses pieds l'hysope des moustaches. Colonne centrale, il sert de base au double arc des sourcils. Sur son chapiteau repose l'aigle, c'est-à-dire la pensée. Autour de lui fleurissent les sourires. Avec quelle fierté le nez d'Ajax se dressait-il contre l'orage quand il disait « J'échapperai malgré les dieux ». Avec quel courage le nez du Grand Condé, qui n'a jamais dénommé grand qu'à cause de son nez. Avec les courages, le nez du Grand Condé lui-même, dans les retranchements des Espagnols, où le vainqueur de Lens et de Laurent-Croix avait eu la hardiesse ou plutôt la prudence de jeter son bâton de commandement. Avec quelle hardiesse se présentait au public le nez de Dugazon, qui avait trouvé 42 manières de se mouvoir et toutes plus comiques les unes que les autres. Non, je ne crois pas que le nez soit condamné à l'obscurité dans laquelle l'ingratitude des hommes l'a laissé jusqu'ici. Peut-être aussi est-ce parce que les nez de l'Occident sont en général de petits nez qu'ils ont subi cette injustice. Mais il n'y a pas que les nez de l'Occident, que diable ! Il y a les nez d'Orient, qui sont de jolis nez. Doutez-vous de la supériorité des nez sur les vôtres, messieurs de Paris, de Vienne ou de Saint-Pétersbourg ? En ce cas, viennois, prenez le Danube, parisien, le bateau à vapeur, pétersbourgeois, le père éclat d'œil, et dites ces simples mots, en Géorgie. Ah, seulement, je vous annonce d'avance une humiliation profonde. Apportassiez-vous en Géorgie un des plus grands nez de l'Europe, le nez d'Hyacinthe ou celui de Schiller ? À la barrière de Tiflis, on vous regardera avec étonnement et l'on dira « Voilà un monsieur qui a perdu son nez en chemin. Quel malheur !» Dès la première rue de la ville, que dis-je, dès les premières maisons des faubourgs, vous serez convaincu que tous les nez grecs, romains, allemands, français, espagnols et même napolitains doivent s'enfoncer de honte dans les entrailles de la terre à la vue des nez géorgiens. Ah, vrai Dieu, les beaux nez que les nez de la Géorgie, les robustes nez, les magnifiques nez. D'abord, il y en a de toutes les formes. Des ronds, de gros, de longs, de larges. Il y en a de toutes les sortes, de blanc, de rose, de rouge, de violet. Il y en a de montés avec des rubis, d'autres avec des perles. J'en ai vu un monté en turquoise. Vous n'avez qu'à les presser entre les deux doigts et du plus petit coulera un pint de vin de Kakhétie.
En Géorgie, une loi de Washington IV a aboli la toise, le mètre, l'archine. Il n'a conservé que le nez. Les étoffes se mesurent au nez. On me dit, j'ai acheté 17 nez de tamalama pour me faire une robe de chambre, 7 nez de canaos pour me faire un pantalon, un nez et demi de satin pour me faire une cravate. Et, disons-le, les dames géorgiennes trouvent que cette mesure vaut beaucoup mieux que toutes les mesures d'Europe. Mais à l'endroit des nez, il ne faut pas non plus mépriser le Daghestan. Ainsi, par exemple, au milieu du visage du bec de Derbent Hadji Youssouf, Dieu donne force à ses épaules. S'élève une certaine protubérance à laquelle ses compatriotes ont encore à trouver un nom convenable, et cependant les uns l'appellent une trompe, les autres un gouvernail, d'autres un manche. À son ombre, trois hommes pouvaient dormir. On doit comprendre combien un pareil nez devait être respecté à Derbent par une chaleur de 52 degrés au soleil, puisque de l'autre côté de ce nez, c'est-à-dire à l'ombre, il n'y avait que 40 degrés. On ne sera donc pas surpris qu'on eût donné Youssouf comme guide à Iskander. Mais disons toute la vérité. Ce n'était pas tout à fait à cause de son nez qu'on le lui avait adjoint. Comme l'a dit le titre de Hadji dont nous avons fait précéder le nom de Youssouf, Youssouf avait été à la Mecque. Pour arriver là, il avait traversé la Perse, l'Asie mineure, la Palestine, le désert, une partie de l'Arabie pétrée et une portion de la mer Rouge. Aussi à son retour, quels admirables récits Youssouf n'avait-il pas fait de son voyage, des dangers qu'il avait courus, des bandits qu'il avait terrassés, des animaux féroces auxquels il avait, comme Samson, brisé la mâchoire. Quand il apparaissait au bazar de Derbent, on se rangeait et l'on disait « Place au lion du steppe !»« C'est un fier homme !» disaient les moustaches les plus pointues et les barbes les plus longues lorsque Youssouf Bek coupait les têtes au fil de sa langue dorée. On dit qu'en passant sur une montagne de Perse, arrivé au sommet, il a accroché son papa qu'à la corne de la lune, tant la montagne était haute. Il n'a eu longtemps pour toute nourriture que des omelettes d'œufs d'aigle et il couchait la nuit dans des cavernes où, quand il éternuait, l'écho répondait de lui-même « Que Dieu te bénisse !» Il est vrai qu'il parle sans réflexion la plupart du temps, mais lorsqu'il a parlé, ses paroles donnent à réfléchir aux autres. Quels animaux n'a-t-il pas vus? Quels hommes n'a-t-il pas rencontrés? Il a vu des animaux qui avaient deux têtes et un seul pied. Il a rencontré des hommes qui n'avaient pas de tête et qui pensaient par le ventre. Tous ces récits avaient bien un peu vieilli. C'est sans doute ce qui faisait qu'on n'avait pas songé à lui pour l'envoyer chercher la boule de neige. Mais quand l'acclamation générale eut donné cette mission à Iskander, Youssouf monta sur son cheval persan, passa à sa ceinture son poignard d'Andreff, son pistolet de Kouba et sa chasquette de Vladikavkaz et s'en promena fièrement dans les rues de Derbent en disant « Si vous voulez, j'accompagnerai le pauvre Iskander, car que voulez-vous que le pauvre Iskander fasse sans moi ?» On lui répondit « Eh bien soit, accompagne Iskander. » Alors il rentra chez lui pour renforcer son armure défensive d'une cuirasse à mailles de cuivre, son armure offensive d'un fusil de Nuka. Des bottes jaunes à haut talon complétèrent son costume. Enfin, il pendit à sa selle son sabre et son fouet. À peine pouvait-il se mouvoir avec tout cet arsenal. Il était prêt bien avant Iskander et l'attendait à la porte en disant « Eh bien, mais est-ce qu'il ne viendra pas? Si l'on m'y donnait cette mission, moi, il y a déjà 2 heures que je serais parti. » Vers 6 heures de l'après-midi, Iskander sortit de sa cour sur son cheval du Karabakh et dans le costume et sous les armes avec lesquelles on avait coutume de le voir. Iskander traversa lentement la ville, non pas qu'il eut le moins du monde l'intention de se faire voir, et parce que les rues qui conduisaient de sa maison aux portes de Derbent étaient encombrées par la population. Enfin, il parvint à joindre Youssouf Beg, lui donna la main, salua une dernière fois les habitants de Derbent et partit au galop. Youssouf le suivit sur son coursier du Khorasan. Pendant quelque temps, on distingua hommes et chevaux, puis on ne vit plus que de la poussière, puis on ne vit plus rien du tout. Hommes et chevaux avaient disparu. Arrivé à un immense cimetière, Iskander Beg ralentit le pas de son cheval. La nuit commençait à tomber. Mais Iskander ne songeait ni à la nuit ni au cimetière. Il songeait à sa bien-aimée Cassim. Youssouf regardait à droite et à gauche avec une certaine inquiétude et profita de ce qu'Iskander ralentissait le pas pour se rapprocher de lui. Iskander était plongé dans ses pensées. « Oh, si vous avez jamais été jeune dame, si jamais vous avez aimé de tout votre cœur, et si, jeune et amoureux, vous vous êtes éloigné du lieu qu'habitait votre bien-aimée, vous comprendrez alors quels sentiments s'agitaient dans la poitrine d'Iskander Beg. » Sans doute, c'est une folie que d'imaginer qu'en respirant les mêmes airs, nous faisons les mêmes rêves, qu'en regardant 10 fois une fenêtre, fût-elle fermée, nous emportons 10 souvenirs. Mais cette folie nous soulage. Notre imagination est toujours plus pittoresque que la réalité. Notre imagination, c'est la poésie. Elle vole légère comme les anges et les oiseaux, et jamais ses ailes blanches ne sont souillées de la boue ni de la poussière des chemins. La réalité, au contraire, c'est la prose. Elle s'enfonce dans les détails. En se penchant sur le cou blanc de la fiancée, elle ne regarde point à la finesse de la peau, mais se demande si les perles de son collier sont vraies ou fausses. Elle fait la cour au mari, caresse le chien et donne de l'argent aux servantes. Ma foi, vive la poésie! Iskander faisait à peu près les mêmes réflexions que nous. Seulement, il les faisait avec 25 ans de moins, ce qui devait leur donner à la fois les couleurs de la rose et le parfum de l'aubépine lorsqu'il sentit que Youssouf Beg le touchait du coude. « Eh bien, lui demanda-t-il en sortant de sa rêverie, qui a-t-il, Youssouf ?»« Il y a que, puisque nous n'avons pas jugé à propos de rester dans la ville avec les vivants, je ne vois pas pourquoi nous restons dans un cimetière avec les morts. Que je brûle leur cercueil si toutes ces pierres ne semblent pas se soulever, et si cette diablesse de potence n'étend pas vers nous sa patte noire et décharnée. » Elle soupire après toi, dit Youssouf. Elle craint que tu ne lui échappes, répondit en rayant Iskander. Je crache sur la barbe de celui qui l'a planté là, dit Hadji Youssouf. Allah me garde, mais chaque fois que je passe par ici, si bon musulman que je me crois, si pur de cœur que je sois, il me semble toujours qu'elle va m'empoigner par le cou. Et pour dire vrai, avoue Iskander que si nous n'étions pas sous la domination russe, nous ne resterions pas longtemps dans la ville, le fusil à l'épaule, le pied à l'étrier. À bas les caravanes! Oh, comme je les arrangerai, les caravanes! Comme je les hacherai en morceaux pas plus gros que des grains de millet. En vérité, mon cher Youssouf, je ne te savais pas si brave pendant la nuit. Lors du blocus de Kazimoula, je t'ai vu au combat pendant le jour, ou plutôt, je ne t'ai pas vu. Est-ce que tu n'étais pas à Derbent? Ah ça, mon bien-aimé Iskander, tu te moqueras donc toujours de moi? Ce n'est donc pas toi présent que j'ai coupé la tête à ce lesbien, lequel était tellement enragé contre moi que, la tête étant déjà à terre, elle m'a si cruellement mordu le pied que j'en souffre encore aujourd'hui, toutes les fois que le temps va changer? Comment? Sérieusement, tu n'as pas vu cela? Dieu ne m'a pas accordé cette grâce. D'ailleurs, sont-ce des hommes, ces lésiens? Est-ce la peine de risquer sa tête contre leurs balles? Si je tue un lésien, ce n'est rien. Mais si un lésien me tue, Allah éprouvera quelque embarras à me remplacer. Aussi, celui-là tué, j'ai pensé que c'était bien assez de combat corps à corps. Je m'en allais tous les jours dans la citadelle. J'avais adopté une pièce de canon. Oui, je m'étais fait son pointeur. J'ajustais et je disais au porte-lance « Feu !» Et alors, je voyais danser le groupe sur lequel j'avais pointé ma pièce. Ah, par Allah, je me suis bien amusée. Je ne m'en suis jamais vantée, mais je puis le dire à toi qui es mon ami. Je suis sûre que je suis la principale cause, vu le mal que je lui faisais, que Kazimoula a levé le siège. Et quand on pense que je n'ai pas reçu la moindre croix, pas même celle de Saint-Georges... Et n'entends-tu pas quelque chose ? Ajouta le vaillant Beg en se serrant contre Iskander. Que diable veux-tu entendre ici, hors le sifflement du vent et les cris des chacals ? Maudits animaux, je leur tuerai père, mère et aïeul. Quelles noces font-ils maintenant, je te le demande. Ils devinent peut-être que demain au soir, ils se régaleront de nos cadavres. Sais-tu bien ce que celui qui attrapera ton nez, Youssouf, ne sera pas malheureux? Voyons, voyons, pas de méchantes plaisanteries, Iskander. Un mauvais mot appelle une mauvaise affaire. C'est justement l'heure des brigands. Les démons, dès que la nuit arrive, se répandent par les chemins. Iskander, si nous allions rencontrer Moulanour... « Qu'est-ce que cela, Moulanour ?» fit Iskander comme s'il ne connaissait pas celui dont son camarade de voyage venait de prononcer le nom. « Pas si haut, Iskander, pas si haut. Par Hussein et Ali, je t'en conjure ou je déclare que je ne reste pas avec toi. Ce maudit Moulanour a des oreilles sur tous les arbres. Au moment où l'on ne pense pas à lui, pan, il vous tombe sur la tête comme la foudre. Et puis... Comment et puis? Je demande après. Après, tu es pris. Il aime à rire et à plaisanter, mais tu comprends des plaisanteries de brigands. » S'il te connaît pour avare, il te prendra d'abord tout ce que tu auras dans les poches, sans compter qu'il te mettra encore à rançon. À un autre, s'il est pauvre, il ne prendra rien, il donnera même. Comment il donnera? Oui, il y a des exemples de cela. De braves garçons amoureux qui n'avaient pas 25 roubles pour acheter leur femme, eh bien, il les leur donnait. À d'autres, il prendra de l'or, la pesanteur de ce qu'il a de balles dans ses cartouches. À d'autres, enfin, il demandera autant de roubles qu'il en pourra placer sur la lame de son poignard. « Que voulez-vous, dit-il, je suis moi-même un pauvre marchand, et tout commerce a ses risques, surtout le mien. » Mais, reprit Iskander en riant, « Est-ce que, par hasard, ceux qui l'arrêtent ont des pipes au lieu de fusils? Ou est-ce que Moulanour est de fer ?»« De fer, dit donc d'acier, cher ami. Les balles s'aplatissent sur lui comme sur le granit. Allah est grand. » D'après ce que tu me dis, Youssouf, j'aime mieux croire que Moulanour est le diable en personne. Il faut être le diable et non pas un homme pour arrêter des caravanes entières. Ah, comme on voit, pauvre garçon, que tu n'as jamais rien entendu que le chant de ton coq. Et qui donc te dit que Moulanour n'a pas de compagnon? Mais il est entouré, au contraire, d'un tas de gaillards qui pensent que mieux vaut manger le pain cultivé par les autres que de prendre la peine de le cultiver soi-même. Des compagnons, par Allah, il ne lui manque pas, les compagnons. Assis moi-même, par exemple. J'ai souvent pensé à cela. Si je n'avais pas de parents, pas d'héritage à venir, brave et aventureux... Mais que fais-tu donc, Iskanderbeg? Où vas-tu donc de ce train-là? On dit que l'obscurité est le jour du diable et je commence à le croire, attendu que cette nuit est noire comme l'enfer. Mais réponds-moi donc, Iskander, à quoi penses-tu? Je pense que tu es un mauvais cavalier, a dit Youssouf. Moi, un mauvais cavalier? N'as-tu pas honte de me dire cela? Il est fâcheux que tu n'aies pas vu comme j'ai arrangé une troupe de brigands près de Damas. Je puis dire, sans me vanter, que lorsque je l'eus sauvé, toute la caravane des pèlerins était à mes pieds, et il y avait de quoi. J'avais tant tué que mon fusil en était rouge et partait de lui-même. Quant à mon sabre, c'était autre chose. Il avait des dents comme un peigne. J'ai laissé 7 morts sur le champ de bataille et j'en ai pris 2 vivants. Qu'en as-tu fait? Je les ai brûlés le lendemain et ils m'embarrassaient. Ça, c'est de la férocité, Youssouf. Que veux-tu? Voilà comme je suis. Et tu ne rougis pas de me conter de pareilles histoires? Ton fusil avait plus de conscience que toi. Il rougissait au moins, lui. Tu ne me crois pas? Demande à Safar Couli, il y était. Quel malheur que Safar Couli soit mort il y a 8 jours. C'est vrai, comme s'il n'eût pas pu attendre, l'imbécile, à ça. Mais à t'entendre, je serai un poltron. Par Allah, mets-moi en face d'une douzaine de brigands et tu verras comme je les arrangerai. Voyons, où sont-ils? Montre-les-moi du bout du doigt. Seulement pas la nuit. Oh, je n'aime pas me battre la nuit. Je veux que le soleil voie ma bravoure. Et puis, j'ai une habitude, c'est de viser toujours à l'œil droit. Je ne reviens pas de mon étonnement, Youssouf. 12 brigands et tu en fais ton affaire? C'est un déjeuner pour moi. Vienne donc le jour et puissions-nous rencontrer 12 brigands. Juste 12. Je te promets que je te les laisserai tous, Youssouf. Je n'en toucherai pas un, même avec le pommeau de mon poignard. Mon cher, il ne faut jamais désirer voir le diable ou aussitôt il nous apparaît. Or, comme les brigands sont des diables et que nous sommes ici sur leur terre, mieux vaut ne pas les évoquer. Avec cela qu'il fait de plus en plus sombre. Il faut que Satan ait emporté la lune. Maudite nuit, elle nous tire le chemin des pieds. Ah, y a moi, au secours! Qu'y a-t-il? Un brigand qui m'arrête, Iskander. Veux-tu me lâcher, démon? Démasque-le et je ferai feu. Démasque-le, démasque-le, c'est bientôt dit. Je crois qu'il a des griffes. Il me tient comme le faucon tient sa proie. Qui es-tu? Que me veux-tu? Voyons, mon ami, on peut s'entendre. Iskander s'approcha de Youssouf. Je m'en doutais, dit-il. La peur a de grands yeux. Ton brigand est un buisson de Derji de Revo. Oh, mon cher Youssouf, tu aurais mieux fait d'aller chercher de l'eau sur un âne à la fontaine que de venir avec moi chercher de la neige au mont Chakdag. Un buisson? Je te déclare que c'était bel et bien un lesbien ou un tchétchène. Mais il m'a vu mettre la main à mon poignard et il m'a lâché. Il t'a vu mettre la main à ton poignard par une pareille obscurité quand, tu le dis toi-même, le diable a emporté la lune. Ces drôles-là sont comme les chats. Ils y voient dans l'obscurité, c'est connu. Oui, mon cher Iskander, que voyez-vous là devant vous? C'est la rivière, comment? Avec un nez comme le tien, tu ne sens pas l'eau? Tiens, regarde, mon cheval s'y connaît mieux que toi. Est-ce que tu vas passer la rivière ce soir? Sans doute. Iskander, c'est imprudent ce que tu veux faire là. Iskander, mieux vaut attendre à demain. Ce n'est pas une bagatelle que de passer la rivière à cette heure-ci. Et la caracha encore. Iskander était déjà au milieu de l'eau. Youssouf aimait encore mieux suivre son compagnon que de rester en arrière. Il se lança dans la rivière noire, et après s'être plaint de la fraîcheur de l'eau, après avoir crié qu'on le tirait par les pieds, après avoir invoqué Allah en disant qu'il était un homme perdu, Youssouf finit par atteindre l'autre bord. Les deux compagnons se remirent en marche et passèrent successivement l'Alcha et la Belvette. Au point du jour, ils étaient sur les bords de la rivière Samour. Le Samour coulait largement. On voyait d'énormes pierres rouler avec ses vagues et les arbres déracinés suivaient son cours, flottant à la surface comme des brins de paille à celle d'un ruisseau. Cette fois, Iskander céda au conseil de Youssouf et s'arrêta. Les cavaliers mirent pied à terre pour donner à leurs chevaux le temps de se reposer. Eux-mêmes se couchèrent sur leurs burqas. Mais Youssouf n'était pas homme à s'endormir sans raconter quelques-unes de ses prouesses. Iskander l'écouta cette fois sans l'interrompre ni le railler. Il sentait venir le sommeil. L'un racontait ce qui ne s'était jamais passé. L'autre rêvait à ce qui allait lui venir. Enfin, voyant qu'il était seul à soutenir la conversation, Youssouf se décida à s'endormir. Iskander dormait depuis longtemps.